Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonsoir. Fin de cycle de catéchèse pour le pape François. Ce matin, dans la cour Saint-Damas du palais apostolique, il a conclu une vaste réflexion sur la prière, noyau incandescent de l'existence, entamée l'année dernière. Il a ainsi médité sur le mystère de la prière de Jésus. Delphine Allaire.
Le pape François est particulièrement revenu sur les dernières heures vécues par Jésus à Jérusalem, cœur battant de l'Évangile, non seulement parce qu'elles y occupent narrativement une grande place, mais parce que la mort et la résurrection jettent de la lumière sur tout le reste de l'histoire de Jésus. C'est ce qu'a soutenu le Saint-Père, estimant que Jésus n'a pas été un philanthrope prenant soin des souffrances et maladies humaines. Il a été, il est, beaucoup plus.
In lui non c'è solamente la bontà, ma la salvezza totale, quella messianica. Quella che fa sperare nella vittoria definitiva della vita sulla morte.
En lui, il n'y a pas seulement la bonté, il y a le salut total messianique, celui qui fait espérer dans la victoire définitive de la vie sur la mort, a ainsi relevé le Saint-Père, revenant sur quelques-uns de ses moments de prière, comme au jardin de Gethsémani, ou bien sûr, surtout, sur la croix. Là, Jésus prie obscurément, enveloppé par le silence de Dieu. C'est la prière la plus hardie, car sur la croix, Jésus devient l'intercesseur absolu, assure le pape. Il prie pour les autres, pour tous, dans la douleur atroce de l'âme et du corps. Le pape François, qui a souhaité par là insister sur la grâce de prier nous-mêmes, mais aussi que nous avons déjà et pour toujours été priés par le Christ sur la croix.
Delphine Allaire, et pour plus de précisions, une seule adresse, bien évidemment, www.vaticannews.va. Dans l'actualité internationale, une rencontre au sommet aujourd'hui en terrain neutre à Genève entre Joe Biden, le président américain, et son homologue russe Vladimir Poutine. C'est la première fois que les deux hommes se rencontrent depuis l'élection de Joe Biden à la tête des États-Unis. Nous reviendrons sur cette entrevue plus en détail dans notre édition de demain matin. La Commission européenne donne son feu vert au plan de relance portugais financé par le grand emprunt commun décidé pour lutter contre les effets de la pandémie de Covid sur les économies de l'Union européenne. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, est venue à Lisbonne pour apporter la décision de Bruxelles. Elle devait se rendre ensuite dans la journée à Madrid pour donner son accord cette fois au plan espagnol. Toujours concernant l'Union européenne, les 27 ont approuvé l'ajout de 78 noms et de 7 entités à la liste des responsables biélorusses sanctionnés pour la répression de l'opposition. Parmi eux figurent également les responsables du détournement d'un avion commercial qui assurait une liaison intra-européenne, ce qui avait poussé Bruxelles à interdire le ciel européen aux avions biélorusses. La guerre de la saucisse entre Britanniques et Européens sera-t-elle évitée? Lord Frost, qui a négocié le traité sur les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le Brexit, propose de réviser le protocole appliqué à l'Irlande du Nord, restée-elle dans le marché unique. 80% des contrôles sur les viandes et les produits laitiers venant de l'île de Grande-Bretagne seraient supprimés. Or, lors du sommet du G7, l'Union européenne a fermement réitéré sa demande d'un respect total de l'accord signé par Boris Johnson. À Londres, Jean Jaffray.
Londres a demandé à Bruxelles de suspendre la décision d'imposer une interdiction de la vente de viande réfrigérée, dont les saucisses du breakfast, début juillet, conformément au protocole nord-irlandais, afin de ne pas rétablir des contrôles à la frontière entre les deux Irlandes pour préserver la paix. Les 6 comtés du Nord sont restés dans le marché unique, ce qui implique notamment des contrôles sanitaires et phytosanitaires sur les produits agroalimentaires arrivant de l'île de Grande-Bretagne. Au grand dam des unionistes protestants, fièrement attachés à la couronne britannique. Les consommateurs ne trouvent plus certains de leurs produits favoris dans les supermarchés. Plus grave, des émeutes ont éclaté dans des quartiers protestants de Belfast à Pâques. À son arrivée pour le sommet du G7, le président américain Joe Biden, un catholique d'ascendance irlandaise, a mis en garde contre toute atteinte à l'accord de paix du Vendredi Saint de 1999, ce qui n'a pas empêché le Premier ministre britannique de déclarer qu'il n'hésiterait pas à remettre en cause des dispositions du protocole pour garantir l'intégrité du territoire britannique. Le problème est que Boris Johnson et les dirigeants européens ne sont pas sur la même longueur d'onde. Pour le Premier ministre, le Brexit signifie la fierté nationale retrouvée et l'intangibilité de la souveraineté. Pour les dirigeants des 27, les traités sont à la base du projet européen. Long Jean Jaffré, Radio Vatican.
La communauté internationale de nouveau appelée à l'aide du Liban. La crise qui frappe de plein fouet le pays n'épargne pas son armée. Les soldats ne sont plus payés suffisamment. Ils ont besoin de colis alimentaires selon l'état-major libanais. C'est pourquoi une conférence virtuelle de donateurs organisée par la France et soutenue par l'ONU se tiendra demain après-midi. Elle doit permettre d'apporter à l'armée libanaise une aide humanitaire réservée généralement aux pays en guerre ou en proie à des catastrophes naturelles. Les autorités nucléaires chinoises se veulent toujours rassurantes après l'accident survenu au sein de la centrale de Taishan qui abrite deux réacteurs EPR. Elles expliquent que c'est un petit nombre de barres de combustible endommagées qui sont à l'origine de l'accumulation de gaz radioactif à l'intérieur d'un des réacteurs. Il n'y aurait pas de fuite radioactive dans l'environnement, précisent les autorités chinoises. Et dans notre dossier ce soir, direction la Turquie et plus précisément le Kurdistan irakien. Les membres du PKK, le parti indépendantiste kurde, sont en effet toujours dans la ligne de mire de la Turquie. La semaine passée, les services secrets turcs ont ainsi éliminé un haut responsable du parti des travailleurs, non loin d'un camp de réfugiés dans le nord de l'Irak. Ankara a multiplié ces derniers mois les frappes de drones dans le nord du pays. Bagdad dénonce régulièrement une violation de sa souveraineté territoriale. Mais derrière les mots, la réalité est plus complexe. L'Irak et la Turquie sont des alliés objectifs contre les velléités des indépendantistes kurdes qui rêvent toujours de bâtir leur état à cheval sur plusieurs pays. Aux confins des territoires irakiens, turcs, syriens et iraniens, se joue un rapport de force entre puissances rivales de la région. Pour décrypter cette mosaïque explosive, nous donnons la parole à Adel Bakawan, directeur du Centre de sociologie de l'Irak à l'université irakienne de Soran.
Aujourd'hui, géopolitiquement parlant, vous avez 12 axes qui se séparent, qui se distancient. Vous avez l'axe de Bagdad, Erbil et Ankara. C'est un pôle géopolitique face à un autre pôle qui est constitué de l'Iran, le PKK, et des organisations miliciennes de Hashd al-Sha'bi, c'est-à-dire la mobilisation populaire. Donc, trois acteurs face aux trois acteurs. Ce qui se passe actuellement sur le sol irakien, c'est une coordination minutieuse, permanente, des actions stratégiques de ces deux pôles-là, l'un contre l'autre.
Et quelle est la véritable influence du PKK à la frontière turco-irakienne et auprès de qui le PKK tire ses ressources?
Une bonne partie des militants du PKK sur le sol irakien sont financés directement par le budget consacré à la mobilisation populaire. Et on sait très bien que ce budget annuel, par exemple cette année-là, le budget des milices chiites de Hashd al-Sha'bi dépasse le budget de 5 ministères irakiens réunis. Et donc, la part de l'Iran, c'est quoi? C'est que grâce à ou à cause, ça dépend comment on voit les choses, à l'intervention iranienne, les combattants du PKK sont financés, leur salaire financé par Hashd al-Sha'bi, numéro 1. Numéro 2, les armes utilisées dans ces combats, une bonne partie de ces armes-là vient de la République islamique de l'Iran. Numéro 3, la République islamique de l'Iran facilite l'installation du PKK dans l'ensemble de territoires contrôlés par les milices considérées comme pro-iraniennes. Et de ce fait, bien évidemment, les liens stratégiques se tissent entre les deux acteurs, à savoir le PKK et la République islamique de l'Iran.
Quel est l'intérêt stratégique de l'Iran en jouant avec ces différents acteurs régionaux?
Avoir un accès, un acteur qui facilite son accès à la Syrie de Bachar al-Assad et par la Syrie au Liban. Il ne faut pas oublier que le PKK a un contrôle très important sur la ceinture frontalière entre l'Irak et la Syrie. De l'autre côté, vous avez un large territoire qui est reconnu comme Rojava, n'est-ce pas? C'est-à-dire le Kurdistan syrien. Et on sait très bien que le Kurdistan syrien est le territoire par excellence d'influence du PKK. C'est là où le PKK est en train d'élaborer, forger, installer, construire son modèle idéologique d'une entité politique. Et l'Iran a besoin ce passage-là pour arriver à Damas et ensuite à Beyrouth.
Interrogé par Olivier Bonnel, Adel Bakawan était ce soir l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est ainsi que prend fin ce journal. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, à toutes et à tous, une excellente soirée.